avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et nous allons saluer notre jardinier qu'on a plaisir à retrouver. Bonjour Philippe Munier.
Bonjour Daniel Mélou, bonjour à tous.
Ça va bien ce dimanche?
Oui, bah écoutez, il fait un temps plutôt pas bon. Trop mal.
Hein, ouais, c'est pas mal.
Un peu mitigé, mais c'est pas mal quand même.
Ouais.
Donc, il a fait ces temps derniers suffisamment chaud et suffisamment humide pour que tout pousse. Hein,
ouais. Comme
il le disait. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce qu'il vient de dire d'ailleurs.
Faut pas laisser trop pousser tout le temps la pelouse.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il faut tondre régulièrement, mais haut. C'est pas grave.
C'est
voilà,
ouais.
Mais
c'est
par
ça.
Contre, si on n'en a rien à faire d'avoir un joli green parfaitement plat, on peut laisser quelques temps entre deux tontes.
C'est
mais
ça.
Dans ce cas-là, fera attention à ne pas couper plus d'un tiers à chaque fois. Donc voilà. Mais ceci étant dit, ça pousse partout, ça pousse les légumes, les fleurs, etc. Ça pousse les plantes spontanées, la végétation sauvage. Et des fois, les deux ne font pas tout à fait bon ménage, donc il faut faire des choses. Et par exemple, sortir la binette, vous avez raison, la mienne est bien affûtée. Le manche a été huilé avec amour. Et donc, elle est prête à refaire une saison. Il n'y a pas de souci, ça va y aller, ça va chauffer.
Eh bien, tant mieux, ça pousse. Ça pousse, et quand ça pousse pas, eh bien vous nous appelez, vous posez vos questions à Philippe Munier.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et chez Anne-Marie à Saint-Armel, c'est pas que ça pousse pas, mais c'est que ça va pas jusqu'au bout, en fait. Bonjour Anne-Marie.
Voilà, bonjour à vous deux.
Alors, voilà. Qu'est-ce qui vous arrive?
On a un mûrier qui est super au jardin, et alors chargé de mûres, des belles mûres, mais alors lorsqu'elles sont mûres, elles se font, comment elles dessèchent, voilà.
Elles mûrissent pas vraiment, quoi.
Elles sont bien mûres. Au contraire, elles sont prêtes à prendre, et tout d'un coup, hop, il n'y a plus de jus dedans.
D'accord.
Ouais, donc j'ai lu sur une revue que ça pouvait s'agir d'une araignée. Mais alors, comment la traiter, cette araignée?
Vous l'avez vue, l'araignée? Non.
Non, non, non.
Alors, est-ce que c'est l'araignée?
Est-ce que c'est ça?
Alors, déjà, quand vous dites mûrier, il s'agit de l'arbre ou il s'agit de la ronce?
De la ronce.
De la ronce,
Oui, de la ronce, je pense. Hein, oui, c'est un mûrier de jardin, mais de la ronce. C'est pas trop piquant. Hein.
Non, non, mais après, la ronce, elle a été... comment dirais-je, sélectionner,
bidouiller
de manière à ce que ça fasse des mûres sans épines. On est d'accord.
Oui,
C'est une ronce quand même, c'est une ronce sans épines.
Oui.
Mais avec des gros fruits.
Oui, voilà.
Voilà, d'accord.
Très gros.
Alors, ça, c'était la première question, parce qu'il existe aussi l'arbre mûrier, vous savez,
très bel
arbre qui existe beaucoup dans le sud de la France, Espagne, l'Italie, etc., qui fait des gros fruits, lui aussi, de noir, et qui nourrit les papillons, les vers à soie. Donc, pour ça, je voulais être sûr qu'on parle de la même chose. La deuxième question que je voulais vous poser, c'est est-ce que lorsque les mûres, tout d'un coup, deviennent désagréables à manger, est-ce qu'elles prennent une coloration un peu grisâtre?
Non.
Non,
elles sont desséchées. D'accord. Non, non.
Alors, il peut y avoir, il y a même pas mal de choses, il n'y a pas que des araignées, malheureusement, il y a aussi des champignons, et moi je verrais plutôt le champignon que l'araignée, mais après, c'est à voir. Là aussi, quand il y a des photos avec les questions, j'aime bien, parce que ça me permet d'être un petit peu plus précis dans mes réponses. Mais ce n'est pas grave, quand vous aurez le temps, envoyez-moi une photo ou deux. Donc, effectivement, sur les ronces, la ronce, c'est la même famille que la framboise, hein, et il se passe un petit peu les mêmes choses. D'ailleurs, toutes les maladies de la framboise, on les retrouve sur la ronce et l'hélice de Versailles. Hein, comment dirais-je, au cours de la croissance. Alors, soit il peut y avoir des bébêtes qui s'installent à l'intérieur et donc qui vont pomper le jus sucré des fruits. Et dans ce cas-là, votre ronce, elle va se retrouver toute ratatinée, effectivement, sans jus, sans rien. Mais il peut y avoir aussi des champignons qui font exactement la même chose et qui vont retrouver un truc qui n'a aucun goût, qui est même presque amer, tellement c'est désagréable. Dans tous les cas de figure, la petite... si ça fait ça systématiquement, moi je serai vous, toutes les, on va dire, 3 semaines, je ferai une petite pulvérisation d'eau bicarbonatée. Alors l'eau bicarbonatée, c'est une cuillère à café rase, Donc on la passe bien le dos d'un couteau hein, pour qu'elle soit bien rase pour un litre d'eau. C'est pas dur à faire, ça coûte pas cher, c'est rapide, mais faut pas en mettre trop, faut vraiment respecter la dose. Et toutes les trois semaines, vous passez avec cette eau bicarbonatée pendant toute la période de grossissement du fruit, puis juste un petit peu avant sa maturation, pas trop, parce que sinon vos mûres auront un goût de bicarbonate, c'est pas le plus intéressant. Hein, c'est pour, voilà. Et je pense que ça va suffire à régler pas mal de problèmes.
Et ben voilà donc Anne-Marie, bonne journée, bon dimanche à Saint-Armel. On a Yvon à Pontivy, bonjour.
Oui, bonjour, oui, je voulais échanger avec Philippe sur
allez-y,
le fait que...
Je vous laisse.
Comment ?
Je vous laisse avec Philippe,
échanger. D'accord, allez-y. Oui, bon. Comment dire, j'ai un péché qui est atteint de la cloque, donc, et que j'ai traité au purin de rhubarbe.
Ouais.
Et donc j'avais vu que le purin de rhubarbe donc avait un effet insecticide, donc il y avait des fourmis sur les feuilles du pêcher, donc j'ai traité avec ça et j'ai constaté donc assez rapidement un dessèchement des feuilles malades et donc l'arbre a retrouvé très très rapidement une belle santé quoi. Et donc mais je n'avais fait donc durant l'hiver aucun traitement préventif. Et l'année dernière j'avais constaté un peu le même phénomène quoi. J'avais agi de la même façon, et donc je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Ah oui, d'accord, donc c'est plus savoir si vous avez bien pratiqué l'utilisation du purin de rhubarbe, quoi. En
fait. Voilà, bah, a priori oui, parce que le résultat est assez impressionnant quand même. Bah, quoi.
Je crois que c'est sans appel, donc a priori, Philippe.
Bah, en fait... Faudrait analyser un petit peu la chose plus finement, mais spontanément, j'ai tendance à dire que l'observation est astucieuse. Alors, le purin de rhubarbe, oui, on sait très bien que c'est très riche en acide oxalique, c'est donc c'est violent, hein. Et donc sur des feuilles qui sont attaquées par des champignons, parce que la cloque c'est un champignon, ça peut et si le purin est très vivant, c'est un purin qu'on vient de faire, donc il y a plein de micro-organismes, et ben ça, ces micro-organismes ils vont bouffer en fait le champignon de la cloque, et ça peut effectivement dessécher, faciliter l'élimination de toutes les feuilles attaquées et peut-être de protéger contre d'autres attaques. Et je pense que si en plus vous ajoutez un petit peu de savon noir, vous pouvez même amplifier le problème. Mais ce qui n'empêche quand même que l'arbre il a chopé quand même le champignon. L'idéal, ça serait quand même d'attaquer avant, hein, d'être en préventif que l'arbre n'ait pas le champignon et que du coup les feuilles et les fruits se développent correctement dès le démarrage. Mais sinon, je pense que votre observation est tout à fait pertinente.
Voilà, donc vous avez bien fait. C'est bien aussi que nous ayons des témoignages de gens qui font des choses et ça marche. Et c'est ça aussi, c'est s'enrichir et partager sur France Bleu Armorique. Bonne journée, Yvon. Solange est à Saint-Senoux. Bonjour.
Oui, bonjour.
Solange, qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Moi, je voulais savoir quand est-ce qu'on peut transplanter un palmier, s'il vous plaît. Et comment ?
Un palmier.
Parce que j'ai vu que ça a des petites racines, je me demande si ça va bien prendre.
Il y a peut-être plusieurs espèces de palmiers aussi.
Alors déjà, il y a plein d'espèces de palmiers, mais par contre, il faut se rappeler que le palmier fait partie d'une famille botanique qui n'a rien à voir avec les arbres. C'est beaucoup plus proche des herbes.
Comme les bananiers, non ?
C'est même pas. Encore plus archaïque, on va dire. Donc, en fait, ce sont des plantes qui, au niveau des racines, justement, quand une racine de palmier est cassée au cours elle est morte. Elle peut pas comme pour les arbres, se ramifier et redémarrer en deux racines. Elle sait pas faire. Donc, si on transplante un palmier, il faut faire très très attention à ne pas abîmer les racines de manière à ce qu'ils puissent redémarrer correctement. Parce que sinon, si toutes ces racines meurent, il en reste trois ou quatre, le temps que d'autres racines redémarrent de la base du tronc et puissent réinstaller l'arbre, eh bien, il se passe plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et il peut en mourir hein, par manque de racines. Donc c'est très très important de vraiment prendre la totalité de la motte sans couper les racines. Et ça c'est le plus dur à faire, ce qui fait que quand on prend un jeune palmier, il y a pas de souci. Par contre quand c'est un vieux sujet, on sait pas trop où elles sont les racines, elles peuvent être très loin. Si c'est un Felis canariensis, ça peut être à 1,50 m, 2 mètres, voire même plus de la base. Donc là on est sur des poids de motte à transporter transporter, qui sont de plusieurs tonnes de terre, et donc il faut faire appel à des engins, et ça devient une opération et périlleuse et coûteuse. Donc, déplacer un palmier, oui, mais faites très attention à ça, et s'il est trop gros, c'est pas la peine de le déplacer. Et
est-ce que c'est la bonne période, tiens, pour le déplacer ?
Alors, oui, il faut le faire quand il fait chaud.
Voilà, hein,
donc,
d'accord.
Grosso modo, de mars à septembre, vraiment septembre, c'est le plus tard. Donc, il faut vraiment le faire quand la plante est en pleine sève, est en pleine végétation, parce que dans ces conditions-là, si on lui blesse quelques racines, elle aura la possibilité de remplacer assez vite, hein, avec des guillemets assez. Donc, il faut faire très attention. Mais, et derrière, il faudra beaucoup arroser.
Et voilà, donc, comment ça marche, le palmier. Merci Solange pour cette question. Bonne journée. On fait une pause et puis tout à l'heure, on va parler de fourmis avec Jean-Claude, de kiwi avec Eliane et de cerisier avec Yvonne.
France Bleu Armorique.
Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours doubles comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. Si tu m'aides à y croire encore. Et même si c'est pas vrai, de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces.
Johnny avec Je te promets sur France Bleu Armorique.
France Bleu. La fête de la musique, la sélection de France Bleu Armorique.
Et si on va dans le Morbihan, du côté de Plumeur, jeudi, ce sera la grande fête à côté de l'espace culturel Passe Ouest, avec dès 18h des groupes de musique actuelle de l'école de musique, la chorale Soleil d'automne, un spectacle théâtral, une danse en ligne par le groupe Tendance de Plumeur, chanson d'abord avec l'atelier voix de l'ADMAP, et puis bien ça continuera jusqu'à très tard, on finira avec la classe orchestre d'Amzer Nevez, c'est Libraise. Ça bouge à la houle, c'est le thème de la fête à Saint-Briac. Ce sera tout simplement samedi prochain, le 23 juin, à partir de 19h, boulevard de la houle. Vous pourrez découvrir Kind of Soul, un quartet qui vous emmène voyager entre Marvin Gaye et Amy Winehouse. Et puis ensuite, il y aura Pau Band et Call Me Max. Voilà tous les rythmes pour cette fête de la musique.
La fête de la musique avec France Bleu Armorique. Vous avez des questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et nous accueillons Jean-Claude qui est à Talensac. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Quelle est votre question ?
Alors j'ai deux petites questions. J'ai une question concernant, j'ai des fourmilières dans la pelouse, pas mal, et dans le jardin. C'est, disons, j'ai des fourmilières avec des petits œufs blancs, j'en ai partout. On m'avait dit qu'il fallait mettre du marc de café. Première question. Deuxième question, oula, c'est concernant...
Il n'y en a qu'une, hein, normalement. Après, on va prendre dans l'ordre. On va déjà s'occuper des fourmis, si vous le voulez bien. Philippe.
Oui, alors avoir des fourmis dans la pelouse, dans le jardin, c'est normal. La fourmi, elle fait partie de la biodiversité. Et le poids de fourmis sur Terre est sans doute à peu près équivalent au poids d'être humain, parce qu'elles sont très très nombreuses, même si elles ne sont pas grosses, elles sont très nombreuses, et elles font un travail extraordinaire. Donc ce n'est pas forcément une calamité, voire même ce n'est pas du tout une calamité d'avoir des fourmis. Les avoir dans le sucrier, oui. De les avoir dans le jardin, non. Hein. Donc là-dessus, il faut être clair. Si vraiment elles vous embêtent énormément, vous prenez un outil, une barre de ferraille, vous faites un trou dans la fourmilière et tous les soirs vous allez les arroser avec 5-6 litres d'eau, pas bouillante, hein, juste de l'eau pour qu'elles en aient marre d'habiter là, et du coup elles vont chez le voisin et vous n'êtes plus embêté. Mais la présence de fourmis n'est pas du tout
nocif pour le
nocif,
reste,
c'est pas des ravageurs. Ce qui est enquiquinant, c'est quand elles montent traire les pucerons dans les arbres, parce qu'elles font de l'élevage de pucerons, que ça pour le coup c'est moins intéressant pour le jardinier, mais là aussi, on peut mettre des répulsifs à la base des arbres pour les empêcher de monter. Donc, il n'y a pas de souci avec les fourmis. Je vous dis, le seul truc, c'est quand elles rentrent dans la maison. Là, ça devient enquiquinant. Mais dans la maison, il y a deux trucs qu'elles n'aiment pas, c'est la lavande et le citron. Donc, mettez de l'huile essentielle de lavande ou de citron, ou des écorces de citron, de les fleurs de lavande. Ouais. Et vous verrez.
Et ça, c'est beaucoup mieux que les choses qu'on vend aussi dans les boutiques et qui sont un peu nocifs pour la santé. Là, au moins, on est sûr.
C'est aussi nocif pour nos enfants et pour nos animaux de compagnie. Donc il vaut mieux garder les fourmis et pas perdre son enfant.
C'est vrai. On va être gentil, Jean-Claude, exceptionnellement. Très vite, votre deuxième question.
Ma deuxième question, c'est concernant deux pieds de kiwi. Pied mâle, pied femelle.
Ouais.
Et le pied femelle, j'ai des feuilles qui dessèchent et puis la branche, elle meurt. Qu'est-ce qui se passe,
pas facile peut-être d'analyser comme ça.
Oui, alors là comme ça,
faudrait une photo peut-être.
C'est mieux qu'une photo. Maintenant, normalement, il y a très très peu de maladies sur les kiwis. Donc quand il y a des branches qui dessèchent, ce qui peut arriver souvent, c'est dû à une blessure à cause d'un coup de vent. Elle a été pincée, elle a été déplacée, il y a quelque chose qui lui a pas plu et il y a la sève circule moins bien et c'est pour ça qu'elle meurt. Il y a très très vraiment, c'est un végétal qui est très très peu malade. Donc en général, quand il y a un problème de ce type-là, c'est plus un problème physique qu'un problème pathologique.
Voilà, donc
regardez un petit peu à la base qu'est-ce qui a pu se passer. Et puis de toute façon, il ne faut pas se poser de questions aussi. Quand une branche commence à se dessécher, on prend son plus joli sécateur, bien affûté, bien désinfecté, évidemment.
Exactement.
Et clic, on enlève la partie malade, comme ça, il n'y a plus de soucis.
Et déjà, ça, c'est une bonne solution. Et puis, je rappelle également, si vous avez comme ça des plantes qui sont pas en forme, c'est difficile d'expliquer à la radio ce qui se passe, eh bien, une petite photo. Vous allez sur le site Jardin Bleu, même Jardin Bleu, sur les moteurs de recherche, et vous allez tomber sur l'émission de Philippe Munier. Et puis, dessus, il y a les podcasts, bien sûr, pour écouter les émissions, les conseils. Et puis aussi, si vous y allez, vous allez écrire un message et puis joindre une petite photo. Ça peut aider aussi aussi à analyser les problèmes. Nous allons à Guerre, dans le Morbihan, avec Eliane. Bonjour.
Bonjour, je vous appelle au sujet d'un kiwi, c'est la même question que le monsieur
précédent. Oui. Et c'est pareil, voilà. c'est des feuilles qui tombent,
ce sont des feuilles qui se dessèchent, ça fait un mois que ça a commencé, moi j'ai cru que c'était un manque d'eau au départ, et puis maintenant ça continue, on a taillé, on a fait plein de choses, et c'est toujours pareil.
Bon, mais ça.
Alors,
est-ce qu'il y a
un traitement ou quelque chose? Non.
Bah, il a la même réponse.
A priori, non. Hein, je vous dis, c'est vraiment un végétal qui est très très peu malade. Donc normalement, c'est un truc qu'on n'a pas besoin de traiter. Donc.
Oui.
Après, malheureusement, les choses évoluent très vite. Hein, du fait de la mondialisation, du fait du réchauffement climatique, il y a des champignons qui avant n'existaient pas en Bretagne, qui maintenant commencent à s'installer et à se développer. Donc il se peut très bien que des champignons pathogène pour le kiwi se développe, mais pour l'instant, ça n'a pas encore été, identifié en tant que tel, et donc il n'y a pas de réponse. De toute façon, il faut toujours faire très attention à ce que le végétal soit dans des bonnes conditions, faire attention à ce qu'il ne soit pas trop nourri, à ce qu'il mais qu'il ait suffisamment d'eau. Pour le kiwi, il faut toujours qu'il ait assez d'eau. Hein. Le kiwi, ça manque, ça a toujours besoin d'eau, ça a toujours besoin d'avoir le pied frais. Hein, ça, c'est très très important, et puis c'est aussi très gourmand, donc il faut faire attention à lui apporter bien à manger. Éventuellement, vous pouvez tenter le coup parce que ça fait pas, disons que c'est un faible impact sur l'environnement de l'eau bicarbonatée dont je parlais tout à l'heure. Donc une cuillère à café rase de bicarbonate de sodium dans un litre d'eau, donc c'est vraiment des petites quantités. On brasse bien, on met dans un pulvérisateur, on pulvérise une fois toutes les 3 semaines, pas plus. Hein, limiter ou bloquer la croissance des champignons. Mais sur le kiwi, vraiment, il n'y a pas grand-chose de plus à faire parce que normalement, il n'est pas malade.
Et ben voilà, donc en tout cas, on peut toujours essayer et tenter ça. On va à Combourg maintenant avec Yvonne. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Alors Yvonne, qu'est-ce qui vous arrive?
Alors voilà, moi j'ai un cerisier fleur qui a plus de 30 ans.
Ouais.
Et il y a un roseton qui pousse au pied, qui fait déjà 2 mètres de haut, que je voulais garder, et qui fleurit blanc.
Ouais.
Donc, est-ce qu'il faut le greffer, ou s'il n'y a rien à faire, si ce sera toujours comme ça?
Non, mais ce qui se passe, les cerisiers fleurs sont toujours greffés. Hein, donc en fait, vous avez un porte-greffe, et sur le porte-greffe, vous avez la greffe du cerisier, je suppose qu'il est rose.
Hein, oui, donc, le cerisier est rose, oui.
Bon, ce qui est reparti du pied, c'est le porte-greffe, c'est pas le greffon. Donc ce qui est le porte-greffe, lui, fleurit blanc.
Ah, d'accord.
Et si vous le séparez, ou si vous le gardez au même endroit, eh bien vous prenez un morceau, donc un greffon, en tête, dans le cerisier rose,
hein, oui,
vous prenez
oui.
un greffon à la bonne période, c'est-à-dire grosso modo du 15 février au 15 avril. Le 15 avril, c'est presque tard, on va dire du 15 février au 30 mars, et
d'accord.
vous greffez votre greffon sur le porte-greffe, et hop, il sera rose lui aussi de nouveau.
Voilà, c'est la solution.
Le rejeton, là, il pousse sur la racine mère. Il pousse pas à côté.
Oui, mais c'est pas grave. Il pousse sur le porte-greffe quand même. Non.
Voilà.
Pas de souci.
Voilà, donc vous pouvez pratiquer comme ça si vous voulez avoir du rose avec du blanc. C'est comme ça que ça marche. Merci Yvonne. On a le temps de prendre Marie. Oui, allez, on va prendre Marie qui est à Lamorbaden. Bonjour Marie.
Bonjour Philippe. Bon, moi j'ai des gazignas.
Oh, bonjour.
Orange, ils ont été boulottés. Les pétales sont mangés par je ne sais qui.
Ah, bon, les pétales, ça, moi je sais qui, moi. Les pétales, c'est les escargots ou les limaces. C'est
souvent pourtant,
les escargots.
J'ai mis l'anti-limace.
Oh, c'est pas bien. Ça dépend lequel vous avez mis.
Vous démarrez mal, Marie. Vous me dites pas bonjour et après vous mettez de l'anti-limace. Comment voulez-vous que ça marche?
C'est vrai, c'est terrible.
Hein. Donc, alors.
Les petites pensées aussi.
Ouais, non, mais ça, les pétales, hein, quand il y a beaucoup d'escargots, beaucoup de limaces, c'est souvent les petites limaces et les petits escargots qui adorent les pétales. Hein. Marqué, moi aussi, ça tombe bien. Hein. mais moi, je mange tout d'un coup, comme ça se voit pas. Donc, dans ces cas-là, je suis quand même plus pour les répulsifs que pour les limacicides, les mollusicides, enfin les machins qui cident. Hein, donc dès que ça cide, c'est pas biologique forcément, puisque biologie, bio, c'est la vie. Hein, donc c'est pas la mort. Donc personnellement, moi le jardin, ça doit être vivant, ça doit pas être mort. Donc essayez de limiter les petits produits, puis tant qu'à prendre un produit qui tue les limaces et les escargots, prenez aussi un produit qui ne tue pas les orvets, les crapauds et les hérissons qui sont des mangeurs de limaces. Hein, donc les petits granulés bleus, vous les laissez chez le marchand, hein, et puis vous prenez par exemple des produits à base de ferramol qui eux ont l'avantage de ne tuer que les gastéropodes et ne tuent pas les orvets, les oiseaux, les chiens aussi d'ailleurs. Voilà, donc, faut pas se tromper de produit hein, quand on l'achète, même si l'autre est un petit peu plus cher, au moins il fait moins de dégâts dans l'environnement. Hein, donc y a ça à faire, mais faites aussi tout le travail de prévention, soit avec de la cendre. Alors, je sais, il pleut tout le temps en ce moment, donc ce qui marche le mieux, c'est quand c'est sec. Il y a la terre de diatomée qui est pas mal aussi, qui elle marche même quand c'est mouillé.
D'accord.
Et puis sinon, il y a un truc qui est tout bête, hein, on met un bout de carton, une planche, et puis tous les matins, on ramasse les petites bébêtes, et puis on les donne à ses poules si on a des poules, sinon on les donne au voisin pour nourrir les poules du voisin. Et quand il est sympa, le voisin, en plus, en échange, il vous donne des œufs.
Ah, c'est pas mal ça, comme.
C'est pas mal non plus.
Mais c'est ça, redécouvrons le plaisir d'avoir des voisins et échangeons avec eux. Merci Marie pour votre question, on fait une pause et puis au 02 99 67 35 35 eh bien vous nous appelez si vous avez des petits soucis dans le jardin et des questions que vous vous posez.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Les aiguilles de la montre ne tournent que dans un sens. Quand on la remonte, c'est encore pour qu'elle avance. C'est le début de la suite. Pourquoi lire à l'envers un calendrier, le journal d'hier aux nouvelles. Courir derrière des trains partis depuis des années, on n'arrivera jamais à l'heure au rendez-vous qu'on a raté. C'est le début de la suite. On n'y peut rien changer. Ce sont les salopards qui réécrivent l'histoire. Un genou à terre, regrets, chagrins anciens, sac à dos de pierre. Ça, c'est le début de la fin. En avant.
Le début de la suite, le nouveau Benabar sur France Bleu Henrique.
Dimanche 17 juin, PMU vous donne 10 millions de raisons de parier sur vous. À l'occasion de la journée du Prix de Diane Longines, quatrième étape des Epic Series, PMU met en jeu une super tirelire exceptionnelle de 10 millions d'euros sur le Quintet Plus. Oui, 10 millions d'euros. Une occasion pareille, ça ne se manque pas. Voir conditions dans les points de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Nantes, Saint-Nazaire, Rennes jusqu'au Mont-Saint-Michel. Traversée moderne d'un vieux pays. Ce sont des trésors méconnus, des paysages naturels, de grandes expositions. De l'Atlantique à la Manche, entre terre et mer. Découvrez autrement ce territoire. Tous les moments forts du voyage sont dans le pass de la traversée à 36 euros. Plus d'infos, voyage-en-bretagne.com.
France Bleu, Armorique. Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Une main verte dans une radio bleue, c'est génial et c'est dimanche sur France Bleu Armorique. Vos questions avec à Saint-Aubin-d'Aubigné, Hervé, bonjour.
Oui, bonjour.
Hervé, quel est votre problème ?
Mon gros problème, c'est comment se débarrasser des petites bébêtes d'oryphores sur les pommes de terre ?
Alors,
oh là là. Alors, première chose, plus on commence de tôt à s'en occuper et moins c'est
une corvée. Ouais.
Voilà. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, on s'équipe avec une petite boîte de conserve. Moi je suis très boîte de conserve. Hein, faut donner plusieurs vies aux éléments, donc je les garde toutes ou quasiment. La petite boîte de conserve, on met un petit peu d'alcool à brûler dedans et puis on se balade au milieu de ces pommes de terre. On ramasse les doryphores, les papas, les mamans, les bébés, hein, qui n'ont pas la même couleur. Hein, ils sont un peu rouge orangé. Ils ont l'air tout rond, ils ont presque l'air de coccinelle, presque, hein, mais ils sont aussi méchants et encore plus gourmands que leurs parents. Donc plouf, on les baigne dans l'alcool à brûler, ça les dessèche tout de suite, comme ça ils n'ont pas le temps de souffrir. Et puis dans la foulée, on regarde bien sous les feuilles, on voit des petits paquets de d'œufs jaunes orangés, ben on les écrase. Et si on n'aime pas les écraser, ben on les fait tomber dans l'alcool à brûler. Et en faisant ça, ben si on peut deux fois par jour, tant mieux. Si on peut pas, au moins une fois par jour, eh bien on règle le problème naturellement. Après, vous pouvez passer à tout un tas de
produits,
je vais le dire le mot, de cochonneries, qui, même si elles sont soi-disant bio, n'auront pas cette innocuité qu'apportera le nettoyage. Et puis, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est ce que a fait quelqu'un qui m'a écrit cette semaine, qui m'a dit, mais pourquoi mettre ça dans l'alcool à brûler ? Moi, je le donne à mes poules. Ben oui, c'est vrai, mais moi, j'ai toujours peur qu'il y en ait un qui s'envole. Alors, je vais vous dire, j'ai pas de problème avec les doryphores, mais je me dis que si j'en avais un, en tout cas cette année, j'aimerais pas qu'il y ait un doryphore qui s'envole pour aller recontaminer, répondre ailleurs. Donc, c'est pour ça que je mets l'alcool à brûler. Mais sinon, ben, c'est vrai, si on a une petite boîte fermée, hein, genre une petite boîte pour aller à la pêche à pied, comme ça, ils s'en vont pas. Et puis on les donne les poules qui, elles, trouvent ça très bon et qui, elles aussi, peuvent faire des œufs avec des doryphores comme celle de tout à l'heure qui faisait avec des limaces et des escargots. Donc vous voyez, la poule, ça fait des œufs avec tout et c'est vachement bien.
Et ça, c'est super. Donc adopter une poule, même sur votre balcon, ça peut vous servir. Yvette est à Pleurtuy. Bonjour Yvette.
Bonjour.
Alors, votre palmier n'est pas en forme, vous ?
Moi, je ne suis pas une grande experte en
palmier.
En jardinage. Hein, oh. Je vous préviens tout de suite. C'est plutôt la main pas verte du tout.
D'accord.
Et j'ai des jardiniers du clair de lune, la promenade du clair de lune à Dinard, qui m'ont offert un rejet de petits palmiers.
Ouais.
Qui m'ont dit que je creuse, que je mets un peu de terre, je le mets dedans jusqu'à telle hauteur, je l'ai fait. Jusqu'à présent, il avait l'air d'aller bien. Je le mouillais une fois par semaine, comme il m'avait dit. Et là, il a le bout des feuilles qui sont comme un tissu qu'on a enlevé la fibre.
D'accord, déchiré un peu, effiloché, ouais.
Il y a plein de fourmis et il est à côté d'une grosse pierre. Mmh. Et il y a plein de fourmis, mais je viens d'entendre que c'était pas ça.
C'est pas dangereux a priori. Qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien, on va poser la question à Philippe parce qu'il en a une idée. Pas facile, hein ?
C'est pas facile, mais j'ai deux, trois idées. En fait, si le reste du palmier est bien vert, alors vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure pour la transplantation du palmier, on fait très attention à ne pas abîmer les racines. Donc là, si ce petit morceau de ce petit rejeton de palmier qui a été apporté, est-ce que justement les racines étaient en bon état, est-ce qu'elles étaient toutes en parfait état, peut-être pas. Et donc, il faut que le palmier refasse des racines et se réinstalle. Et ça, ça leur prend beaucoup d'énergie. Pendant ce temps-là, ils ne s'occupent pas trop de leurs feuilles. Hein. Ils vont s'en occuper un petit peu parce que c'est dans les feuilles que se fabrique la sève qui va les nourrir pour qu'ils puissent faire des racines. Mais ce qui n'empêche quand même qu'il y a moins d'énergie dans la plante. Et donc, très souvent, le bout des branches, des feuilles, pardon, des palmes, a tendance à brûler un petit peu. Alors, surtout en plus, il est un petit peu au soleil. En plus, vous n'êtes pas loin de la mer, hein, si j'ai bien compris.
Bah oui, Dina, oui. Hein,
donc, effectivement, l'air est salé et de l'air salin, ça attaque toujours les feuilles de palmier. Les feuilles de palmier sont toujours un peu attaquées par l'air salin. Donc, ça donne ce petit côté un peu brûlé. Et après, effectivement, y a des petites bébêtes qui peuvent venir, ou des petits champignons qui peuvent venir manger entre cellules. Et ce qui fait ce côté un peu dilacéré, un petit peu chiffon dont vous parliez. Les fourmis, s'il y en a, il faut peut-être quand même regarder pourquoi est-ce qu'elles sont là. Elles peuvent être là parce qu'il y a des cochenilles, elles peuvent être là parce qu'il y a des pucerons. Donc il faut bien vérifier qu'il n'y a ni l'un ni l'autre. S'il y a l'un ou l'autre, eh ben, un petit pulvérisateur de l'eau, du savon noir et du savon noir simplement, ça suffit sur les pucerons et les cochenilles. En général, par contre, il faut toujours faire 3 jours de suite à chaque fois. Hein. Donc je crois qu'il faut juste faire attention à ça, continuer à arroser une fois la semaine abondamment. Hein. Faut, quand je dis abondamment, c'est au moins 2-3 litres, hein. c'est pas un verre d'eau. Quoi. C'est bien, c'est une très bonne idée, mais bien contrôler qu'il n'y ait pas des petits parasites qui profitent de la faiblesse de la plante pour venir s'installer et éventuellement venir la tuer. Donc je pense que c'est plutôt ça qu'il faut faire, et dans ces conditions-là, ça devrait le faire. Et on n'a pas besoin d'avoir les mains vertes pour pouvoir travailler les plantes. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, ne pas avoir la main verte, ce n'est pas une maladie.
Voilà, d'accord, ça rassure notre amie Yvette qu'on embrasse. On va retrouver maintenant Bernard à Mordel. Bonjour Bernard.
Bonjour. Alors moi, c'est une christophine.
Ah oui, c'est bien. Christophine. C'est bon ça. C'est bon,
l'année dernière, j'avais planté cette christophine. Elle était venue. Elle était partie dans mon grillage sur environ 3 mètres. Et puis, ploup, elle crevait.
Disparue, ouais.
Disparue. Je dis, tiens, il n'y a plus rien. J'ai tiré dessus, j'ai enlevé tout. Bon, terminé. Et cette année, c'est reparti.
Ah, alors miracle, là, miracle. Vous ne comprenez plus rien.
Non, je ne comprends rien parce qu'elle est vraiment belle. Ah. Alors, est-ce que je la garde? Est-ce qu'elle va me faire quelque chose? Je sais pas.
Alors, comment ça marche,
ça, qu'il faut la garder? Oui, il n'y a pas de raison. La christophine, ça doit être une cucurbitacée qui vient des
Antilles.
Des endroits, hein. Des zones tropicales, hein,
oui, donc
la Réunion, les Antilles, etc. Ça vient un peu. Bon, ça vaut donc venir de pays chauds. Ça résiste plutôt bien au froid et ça passe plutôt bien l'hiver. Donc en fait, la vôtre, elle devait enterrer suffisamment profondément, ce qui fait que quand vous avez tiré la partie qui vous semblait morte, il devait y avoir des morceaux, des racines qui restaient dans le sol et qui du coup sont repartis au printemps. C'est très bien. Gardez-la, palissadez-la. Faites attention parce que c'est lourd, hein, surtout. Alors bon, là, comme elle a été un petit peu matraquée, ce sera peut-être pas aussi belle que l'année dernière ou plus belle, mais sinon d'un an sur l'autre, elle est de plus en plus grosse, elle produit de plus en plus, donc si votre clôture n'est pas très solide, ça peut faire cabaner la ouais. clôture, donc on fait attention à ça, mais sinon, il faut la laisser, au contraire, c'est vraiment un légume très, très agréable à manger, c'est une plante très prolifique et qui en plus est plutôt, plutôt jolie, donc
c'est bon aussi. En plus, un gratin de christophine, qu'est-ce que c'est bon ça.
On est d'accord.
Donc, il faut la garder, Bernard. On viendra
et nous inviter. Voilà, on viendra manger les christophines.
Exact.
Pour juger du goût.
Voilà, c'est ça. Et voir si vous avez bien fait et bien conservé.
Si le cru de Mordel est meilleur que les autres.
C'est ça. On fait du service après-vente en plus. Il n'y a pas de problème. Merci, Bernard. Anaïk à Lanester. Bonjour.
Bonjour, messieurs.
Alors, c'est le rosier, vous, qui vous tracasse?
C'est ça, tout à fait.
Expliquez-nous, quelle est la question?
Alors, ma question est, est-ce qu'on peut planter un rosier à la place d'un rosier? Parce que, alors, j'entends tout et son contraire.
Ah, mais
D'une manière générale, non. D'une manière générale, on ne plante pas au même endroit le même végétal. Parce que s'il est mort d'une maladie, par exemple, ça veut dire qu'elle est sur place. Et donc, on ne va pas mettre un jeune végétal, donc pas forcément bien tout à fait à l'aise dans ses racines, à un endroit où il y a déjà eu un vieux qui était malade et qui, voilà, qui il va se ramasser toutes les maladies de la terre et il ne va pas pousser. Donc, d'une manière générale, la réponse est non. Après, si vous vous amusez à faire des très gros trous, si ça vous amuse, hein, moi, personnellement, ça me casse les pieds, mais vous pouvez très bien changer la terre. C'est beaucoup de travail. Mais si vous voulez vraiment remettre le même végétal au même endroit, il faut changer la terre et il faut enlever un mètre cube de manière à ramener un mètre cube de terre d'ailleurs, qui ne sera pas forcément meilleur parce que vous n'aurez pas le passé de cette terre-là. Mais bref, si vous voulez faire le jeu, faites-le. Mais sinon, essayez de trouver une autre idée.
Voilà, donc vous avez la réponse.
Il y a plein d'idées en fait à trouver. Hein.
C'est ça.
Tellement de végétaux sur Terre qu'il y a toujours un végétal qui peut remplacer un autre sans problème.
Voilà donc le conseil, Yannick, vous avez bien fait de nous appeler car là vous avez la réponse du professionnel. On fait une pause et puis tout à l'heure on a, je pense, le temps d'accueillir Christelle qui a une question sur des pousses de bambou et Jacques qui lui a une maladie sur sa vigne.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Meunier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
D'ici là, c'est Ami McDonald sur France Bleu Armorique. This is the life. Il est 9h52 sur France Bleu Armorique. Bon dimanche. Sur France Bleu Armorique, this is life.
C'est la fiesta! Wouhou! On sort les cocotiges, on se crème le visage et on se démêle les cheveux. Et maintenant, on va se taper les dents de bas en haut et de haut en bas.
Chez Lapeyre, la salle de bain est à la fête avec la fête des prix bienfaits. Et jusqu'au 25 juin, on vous offre jusqu'à 1 500 € de remise sur votre projet salle de bain. Lapeyre, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
Conditions sur lapeyre.fr.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Meunier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et nous accueillons Christelle qui est à Bru. Bonjour Christelle.
Oui, bonjour messieurs.
Oui, alors, donc, j'ai des pousses de bambou qui poussent sur tout le terrain.
Ouais.
Et je ne sais pas comment les éliminer.
Et ça pousse rapidement, quelquefois,
et
même.
Oui, ça repousse tout le temps.
Et oui, c'est ça. Alors, il y a des endroits, ça ne vient pas forcément là où on veut. Alors, à mon avis, il se passe des choses sous terre, Philippe.
Oui.
Et oui, je pense que le problème quand on plante des bambous, c'est qu'il faut savoir les garder là où on les a plantés. Et donc déjà, il faut choisir des bambous non traçants, hein, des, ce qu'on appelle les bambous cespiteux, c'est-à-dire qu'ils restent gentiment à la place où on les a plantés, ils ne vont pas coloniser tout le jardin. Et si par hasard, parce que souvent, ils sont quand même très jolis, ces bambous traçants, donc si par hasard, on a vraiment envie d'avoir un bambou traçant, eh bien autour de la touffe de bambou, on fait une tranchée de la largeur et de la profondeur d'une bêche, c'est-à-dire grosso modo, ça fait 25 sur 32 de façon à ce que le bambou reste dans cet îlot que vous créez. Il faut faire très attention à ce que le petit îlot en question, donc le petit ravin que vous creusez, soit toujours bien nettoyé, parce que si comment dirais-je, à chaque fois que le rhizome sort, s'il voit de la lumière, si je peux dire, eh ben, il part vers le haut, vers la lumière. Par contre, s'il voit que du noir, eh ben, il va continuer son avance dans le sol, et il va donc traverser le petit fossé pour aller coloniser votre pelouse. Donc faut vraiment, mais si on fait ça correctement, donc une petite tranchée qui est régulièrement nettoyée, eh bien il va rester dans l'îlot qu'on lui a construit, il n'y a pas de souci. Maintenant, une fois qu'ils sont partis, les rhizomes, eh bien il n'y a plus qu'à galoper après. Donc déjà on va commencer par couper la touffe ou l'endroit, le massif de bambou, je ne sais pas à quel niveau c'est, hein, s'il y en a vraiment une forêt ou si c'est juste un pied qui se répand un peu partout. On va déjà commencer par faire ce petit fossé, et puis ensuite, eh bien, à chaque fois qu'il y a une pousse de bambou qui apparaît, eh bien, il ne faut pas chercher à la casser, parce que ça casse comme du verre. Il faut chercher à la déplanter et tirer sur le rhizome jusqu'à temps qu'on l'ait arraché. Voilà, tout le soin qu'on n'avait pas pris en amont, on va le transformer en corvée, en aval. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire, et de toute façon, si il n'y a pas d'autre solution, si vous utiliser des produits dont je ne citerai même pas le nom tellement je ne les aime pas, ça vous n'obtiendrez rien de plus, si ce n'est la destruction de votre environnement et de votre santé.
Ce serait dommage. Merci Christelle pour votre question. C'est avec Christelle qu'on va se dire au revoir. Sans doute quelques conseils. Moi, j'ai un petit message qui nous est arrivé à l'accueil de France Bleu Armorique. C'est un particulier, un auditeur de France Bleu Armorique qui s'appelle Monsieur Garçon, et qui a Tran-la-Forêt au nord de l'Ille-et-Vilaine, et qui ouvre les portes de son jardin aujourd'hui, cet après-midi à 14h, tout simplement pour faire partager gratuitement la beauté de son jardin. Il a 400 rosiers pleins de fleurs, et voilà, il peut donner des conseils. C'est bien des initiatives comme ça d'aller voir.
C'est super. Moi, de toute façon, je dis, il faut toujours aller voir le jardin des autres, parce qu'on a toujours des idées à trouver